When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Threads et on va également parler de Threads et peut-être un petit peu de Threads. Non, sans rire, on parlera probablement aussi d'autres choses si on a le temps. Lancement générique. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2023 et c'est l'épisode numéro 521. Et vous l'aurez probablement reconnu, ce n'est pas Patrick, je suis littéralement notre Patrick aujourd'hui. Notre Patrick est parti hein, sur les îles Caïmans avec son yacht et son hélicoptère, avec l'argent des Patriotes. On n'est pas là pour juger des business models des autres, hein. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Hein, envoyez juste le fisc aux fesses de Patrick. je suis accompagné de mes compagnons de toujours. Nous sommes l'équipe du Mug Nowtech, petit placement produit. Ah oui, j'ai eu un petit son d'interférence. Comme vous voyez, nous sommes des professionnels. Je suis accompagné aujourd'hui de Marion et de Guillaume. Marion, comment vas-tu ?
Ben ça va très bien. Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être là. Il fait beau, il fait pas trop chaud, donc c'est parfait.
Guillaume, comment ça va ?
Bon, ça va bien. Moi, j'aime bien. On met des petits tirs à Patrick dès le début de la.
Oui. Balle perdue. Bim.
Ouais. C'est un peu l'esprit des vacances, finalement. On est entre potes, on se chamaille.
Les absents ont toujours tort, de toute façon.
Exactement, Marion. Une parole très sage en ce début. J'allais dire de mug. De rendez-vous tech. On est sur le rendez-vous tech. On arrête la promo.
Justement, Patrick m'a donné plein de consignes. Comment faire un rendez-vous tech, protocolaire, les trois sujets majeurs. On va pas du tout faire ça.
On va essayer.
Mais non, on va rien du tout faire de ça, parce que nous, on est le mug, hein, on va imposer notre format. En fait, on a quand même une grosse actu aujourd'hui, dont on aimerait parler, parce qu'il y a plein de choses à dire, en fait. Il y a plein d'imbrications dans cette news. Mais globalement, effectivement, vous l'aurez compris, on va pas mal parler de Threads versus Twitter. Ça va être un peu notre gros dossier du jour. Donc, on verra si on est plus ou moins long là-dessus. On parlera aussi probablement, mais plus ou moins longuement, de la surveillance d'Internet, la tentation française. Plus de surveillance des réseaux sociaux et d'Internet. Nous parlerons ensuite... Alors, moi, j'ai fait un grand mélange entre les sujets complémentaires et les news et les rumeurs. Mmh. On parlera probablement aussi de l'Europe qui pourrait lancer son propre chat GPT en 2028. Est-ce que ça ne sera pas un petit peu trop tard ? Du Apple Vision Pro, où il faudra un rendez-vous obligatoire et peut-être un mot du médecin. Chat GPT qui commence à décliner. Eh oui, l'utilisation de Chat GPT, on essaiera d'analyser ça. De Twitch qui ajoute, et on était à la TwitchCon, donc on pourra donner un petit peu de feedback là-dessus.
Bien sûr.
Qui ajoute des espèces de stories à Twitch. Guillaume vous expliquera un petit peu l'intérêt de la chose. Et on parlera également de Starlink, qui se positionne comme une option viable à l'ADSL, notamment en termes de prix, un sujet qui plaira beaucoup à Marion, qui galère actuellement à avoir une connexion en Bretagne. Donc, sujet d'actualité. On verra, il y aura peut-être d'autres sujets si vraiment on n'a rien à dire, mais je trouve qu'on a déjà pas mal de lourds, et on va attaquer tout de suite, effectivement, avec Threads versus Twitter. Threads, c'est vraiment le phénomène de cet été dans le petit monde des réseaux sociaux. Bref historique de là où on en est aujourd'hui. Twitter, on ne va pas refaire toutes les actus. Elon Musk qui reprend Twitter, mais Twitter en est là. On peut dire que c'est un joyeux bazar actuellement. Twitter, on ne sait pas où ça va. Et point culminant, en juillet, je ne saurais plus les dates, mais Elon Musk a annoncé qu'on ne pourrait plus lire autant de Twitter. Bref, gros push très hard vers abonnez-vous, donnez-moi de l'argent.
Même si ça ressemblait aussi à des soucis techniques un peu.
Oui, hein. il y avait un drôle de mélange.
Il y avait un drôle de mélange.
Justement, c'est un petit peu un drôle de mélange. On a un peu l'impression que Twitter est un bateau ivre et même les plus acharnés de Twitter, dont je suis les plus grands défenseurs de Twitter, n'arrivent même plus à comprendre où ça va et se découragent.
Oh, mais tu es l'un des derniers défenseurs de cette plateforme, mais bon courage à toi, bien
toxique,
sûr.
Toxique, j'aime manger du toxique.
C'est très comme Britney Spears.
Exactement. Je ne
fais pas les références.
Écoute Marion, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut.
Et là, patatras, l'homme qu'on n'attendait plus, certainement le réseau social le plus ringard de notre époque, nos amis de Facebook, aka Meta maintenant, oui, débarquent avec Threads. Threads qui, en gros, et je sais que tous les deux, vous avez exploré un petit peu Threads avant l'émission. En gros, c'est Twitter ou c'est différent ?
Marion, je te laisse commencer. Comme tu veux.
Ah bah c'est Twitter. Hein. Je pense que ça ne s'en cache même pas. Je veux dire, que ce soit l'interface, les fonctionnalités, etc. Et je ne vois pas pourquoi ils s'en cacheraient d'ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres apps qui se sont lancées et qui copient un petit peu. Tous essayent de prendre la part du gâteau que Twitter délaisse. Avec leurs différentes mises à jour, donc c'est pas vraiment étonnant.
Et toi qui, justement, dans l'UX design, en termes d'expérience utilisateur, tu as tout de suite retrouvé tes petits sur Threads où il y a des nuances. En gros, est-ce qu'ils ont copié le code de A à Z et l'interface Alors, sachant qu'on est en version très bêta hein, de Threads, il manque encore beaucoup de fonctionnalités, mais ta première impression, on va dire ton onboarding de Threads, t'as eu l'impression de Twitter bis ou des différences ?
Alors, l'onboarding est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une application Instagram. D'ailleurs, Instagram n'est pas Facebook, c'est intéressant. C'est une application Instagram et donc du coup, en fait, tu te logues, tu n'as pas à créer de compte. C'est le grand avantage de Facebook, enfin de Meta, ici, quand tu démarres avec Threads, c'est que tu te logues via ton compte Instagram. Donc, ça reprend ta bio, ton profil, etc. T'as pas d'image à uploader. Donc, ça se fait vraiment en deux clics. Et d'ailleurs, c'est indissociable. Si tu essayes de supprimer ton compte Threads ou ton compte Instagram, ça supprime les deux. Enfin,
ça va changer. Il y a eu l'info, ouais. Ça va changer bientôt, ouais.
C'est ce qu'ils disent. Je suis pas sûre que ce soit leur top priorité. Donc,
je
pense que dans la roadmap, tu vois, dissocier les comptes, je pense que ça va être loin dans le top de priorité des fonctionnalités à développer.
D'abord, mais, avoir du monde et avoir des Français. Hein, on en reparlera, ça.
Mais clairement, c'est la même chose. Et l'onboarding est assez intéressant parce que du coup, c'est même pas un onboarding, quoi. Tu as déjà tout. Ils vont t'encourager à suivre des comptes que tu suis déjà sur Instagram, qu'ils soient ou pas déjà sur Threads. Donc ça, c'est bien foutu aussi. Alors, tu as une petite pop-up qui t'avertit si la personne n'est pas encore sur Threads en disant « vous serez notifié quand la personne arrive ». Et ça, c'est typiquement une bonne stratégie aussi pour encourager les gens qui sont sur Instagram et pas encore sur Threads en leur disant « il y a tant de personnes qui vous attendent sur Threads, rejoignez aussi pour avoir votre compte là-bas ». Là, c'est un gros avantage dans les deux sens. Et donc, du coup, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est qu'on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités de Twitter, mais c'est normal dans la mesure où il n'y a pas encore assez de contenu. Je voyais des remarques du genre « on ne voit pas les trending topics, on ne peut pas chercher sur des sujets en particulier, etc. » Quand on cherche, c'est uniquement des utilisateurs. Bah oui, parce qu'en fait, pour tout lancement de réseau social, quand il n'y a pas de contenu, tu cherches rien.
oui, c'est vrai.
Donc en fait, tu as toujours le serpent qui se mord la queue ou l'œuf et la poule. C'est comment tu fais pour attirer des gens quand il n'y a pas de contenu et comment tu fais pour générer du contenu si tu n'as pas de gens.
Donc,
du coup, ils ont développé les fonctionnalités qui étaient critiques au lancement de l'application Threads pour une MVP, entre guillemets, mais qui est quand même assez relativement complète pour assez ressembler à Twitter et que les gens puissent quand même l'utiliser. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne me suis pas senti limitée dans un premier temps. Il y a déjà les threads qui sont le principe même de l'app, quoi.
Je suis assez d'accord. Hein. Quand je suis arrivé sur l'application, j'ai trouvé que l'interface était très claire. Il y avait pas, par exemple, c'est un problème que je reproche beaucoup à TikTok. Hein. TikTok a une interface très chargée, je trouve, quand tu arrives dessus, avec beaucoup d'éléments que tu ne comprends pas forcément au premier regard. Et là, c'est vrai que l'interface, que ce soit en mode clair ou sombre, c'est très clair, C'est très facile. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'onboarding. Et là, ils ont fait un joli boulot. Parce que quand c'est pas bien, on critique beaucoup. Mais là, c'est un joli boulot.
Et justement, toi, Guillaume, qui est un développeur de génie caché... Pour toi, on est capable aujourd'hui de faire un réseau social sans pomper une seule ligne de code et qui ressemble autant à Twitter ? Ou c'est chelou quand même ?
Oh non, ils n'ont pas repris de code de Twitter, j'y crois pas. Non.
Bon, on y reviendra, parce qu'il y a une petite polémique là-dessus.
Ouais, non, j'y crois pas. Et surtout qu'en plus, la stack technique côté serveur derrière, c'est pas du tout la même que Twitter.
D'accord.
C'est tout le fait divers, ActivityPub, si on a le temps aussi, on en discutera deux secondes, mais la stack serveur n'est pas la même, et la partie front, non, tu peux faire des choses qui ressemblent...
Sans copier.
Voilà, contrairement à Kick.com, qui est un peu le concurrent de Twitch, qui lui, a priori, aurait piqué des bouts de code.
Il y a eu un leak du code source de Twitch.
Ouais.
Là, a priori, même s'il y a eu des histoires quand même de leak de code de Twitter récemment.
Peut-être, mais en tout cas, je crois pas à la théorie du complot, du vol de code et tout.
D'accord,
ça.
D'accord, on reviendra justement sur toutes ces théories. Mm. Mais ce que disait Marion est très intéressant, parce qu'un réseau social, aussi bon soit-il techniquement, ce n'est rien s'il n'y a personne dessus.
Oui.
Et là, c'est un carton plein. En seulement 4 jours, plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est aujourd'hui la courbe de croissance, d'adoption d'un réseau social. Alors, ChatGPT avait écrasé tout le monde.
Oui, c'est drôle.
En faisant en 4 jours, je ne sais plus combien de millions. Mais là, c'est le banger absolu. Plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement 4 jours. Mark Zuckerberg qui dit que son but maintenant, c'est 1 milliard. D'utilisateurs. Il y a eu effectivement quand même une conjoncture. Alors, à quel point ça a été orchestré par Mark Zuckerberg et ses équipes de sortir pile poil au bon moment où il y avait vraiment du bad buzz sur Twitter avec cette histoire qu'on ne pouvait plus voir autant de tweets qu'avant. Enfin, le fond du fond, et là, boum, Threads est sorti. Votre avis, est-ce que Threads était dans les cartons depuis un certain temps ? Est-ce qu'ils ont fait une sortie accélérée pour bénéficier du bad buzz, ou c'est juste les hasards du calendrier ?
Il y a des bad buzz toutes les deux semaines avec Musk, donc en soi, tu peux sortir à peu près à n'importe quel moment, tu es sûr de profiter d'un bad buzz. Donc non, je pense que c'était dans les cartons. C'est vrai que c'est arrivé un peu en secret.
Alors,
qui étudions la tech, on n'en avait pas beaucoup entendu parler de Threads avant.
Je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même l'impression que les derniers bad buzz de Twitter, tu vois, même des gens comme moi ont tweeté leur découragement. Mm. Même les gens qui ont leur vie, et moi je le dis, une partie de ma vie est sur Twitter, commencent à ressentir, donc on va dire, le dernier bastion commence à se décourager. Mm. Donc j'aurais été Facebook, j'aurais vu ces tweets passer, j'aurais fait, c'est le moment de balancer une alternative, quoi. En plus, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas envie d'aller sur Mastodon, ils n'ont pas envie d'aller sur Skyline, qui est une autre alternative, parce que ça paraît compliqué. Et Threads arrive avec finalement un login assez simple, puisque c'est celui d'Instagram. Est-ce que c'est ça le secret pour arriver à 100 millions d'utilisateurs, à ton avis, Marion ? Juste que c'est simple de l'adopter ?
En fait, on essaie de comparer l'incomparable. Enfin, je veux dire, quand Twitter s'est lancé, le paysage des réseaux sociaux était quand même radicalement différent. Twitter a fait sa place, certes, avec pas un nombre d'utilisateurs aussi comparable que Facebook ou Instagram, mais il a fait sa place. Et là, on est dans un contexte où l'opinion publique est très négative envers Twitter, la grande majorité. Il y a des espèces d'alternatives qui pop un peu partout. Alors, pas très convaincantes parce que on l'avance sous couvert de décentralisation dont la plupart des utilisateurs s'en foutent royalement, ou qui sont complexes à utiliser, etc. Et donc, en fait, là, c'était une voie toute tracée pour Meta. Surtout le fait d'utiliser le même login qu'Instagram, c'était d'une évidence pour rediriger les gens facilement sur Threads, assez époustouflante. Et donc du coup, oui, c'était dans les cartons parce que c'était une opportunité depuis le rachat, j'ai envie de dire, depuis le cafouillage du rachat l'année dernière. Même depuis début 2022, où il y avait des rumeurs que Twitter essayait de se faire acheter, etc., c'est évident qu'il y avait une opportunité. Les multiples bad buzz, je pense, ont en effet accéléré. Parce que clairement, c'est une MVP, comme on disait, c'est minimum viable product, c'est-à-dire quel est le minimum produit qui va faire que tu vas pouvoir vérifier l'hypothèse que ça va fonctionner. Et qu'est-ce que ça veut dire fonctionner ? Ça veut dire avoir attiré assez d'utilisateurs, avoir des échanges qui font que les gens reviennent tous les jours pour interagir et pour voir ce qu'il y a de nouveau, etc. Que les gens vont suivre, interagir et compagnie. Donc j'ai oublié ta question, mais
c'était effectivement est-ce que ce succès fulgurant, parce qu'on peut parler vraiment d'un succès fulgurant, c'est la conjonction à la fois d'une attente, mais aussi de quelque chose de très simple pour pouvoir se loguer. Quoi.
C'est marrant
mais
que tu dises ça parce
mais plus que simple, enfin simplicité, tu dirais, tu peux avoir une expérience qui est simple. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est une stratégie de croissance de Meta qui fait que ils ont tout. Ils ont la base utilisateur avec je sais plus combien sur Instagram. Je sais plus si c'est pas 2 millions sur Instagram. Et donc, du coup, ils l'ont, la base utilisateur. Il faut qu'ils la fassent migrer sur un nouveau service. Mais comme on sait que quand même, il y a pas mal de personnes de cette base qui attend une alternative à Twitter, en fait, de juste leur dire vous avez aucun profil à créer, on vous attend ici. C'est évidemment redoutable comme stratégie. C'est plus qu'une simplicité d'utilisation ici. C'est carrément une stratégie d'acquisition qu'ils ont mis en place. Et à juste raison, enfin à juste titre.
Ouais, c'est du confort. Moi, c'est marrant parce que ayant fait un petit peu de dev, je trouve qu'il y a un côté très side project à Threads. Un peu un projet... j'aimerais bien avoir la vérité là-dessus, mais je me dis... C'est bien un truc que je vois des nouveaux devs chez Meta. On leur dit, tiens... Amusez-vous un peu, faites-nous un réseau social. Il y a eu Fediverse, Mastodon, un peu tout ça. Créez un peu une instance Facebook, créez votre réseau, amusez-vous un peu à faire ça. Et je me demande si tout ce qui se passe avec Twitter en ce moment, il n'y a pas Marc qui allait les voir et leur a dit « Dis donc, le petit ouais, projet à côté, là, c'est... »
On le lance, c'est le moment, quoi.
Ouais, dans le sens, en fait, comme l'a dit Marion, comme c'est un côté très MVP, mais qui marche bien, mais un côté très simple MVP... j'ai un peu ce sentiment-là, cette sensation-là. Maintenant, je peux me tromper complètement, mais voilà. Donc, le timing, l'adaptation du timing, parce que le produit est simple, c'est peut-être ça qui fait que là, d'un coup, bam, ça marche, c'est au bon moment. Il y a des dramas sur Twitter, c'est lancé, et paf, ça augmente.
Et alors, celui qui, lui non plus, n'avait pas vu venir les choses, et qui s'est pris un gros boulet de canon quand même, c'est Elon Musk. Alors, on sait que Elon Musk avait rumeur et savait que Mark arrivait avec son réseau, puisqu'il l'a même provoqué en duel, qu'ils allaient se battre comme deux enfants dans une cour de récré. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Mais là, ce week-end, il s'est pris en plein dans la gueule ce succès de Threads, un succès ravageur. Et du coup, on sent quand même que le ton change. C'est-à-dire que de bon enfant et blague potache, on va starter la gueule à la fin de la récré et tout ça. Là, il commence à dégainer des menaces d'attaque en justice. Il dit « Vous avez débauché mes meilleurs ingénieurs », ce à quoi on a tout de suite envie de lui répondre « T'avais pas qu'à les virer aussi, imbécile ». Et c'est, dans les faits, c'est vrai, le groupe Meta a embauché d'anciens ingénieurs de Twitter qui étaient sur le marché.
Bah oui.
On ne va pas revenir sur l'histoire de Twitter, mais il a
quasiment... Tant mieux pour eux.
Oui, tant mieux pour eux. Il a quasiment viré tout le monde. Ça aussi, mine de rien, parce que je veux bien que ça soit un side project, mais il a dû quand même avoir l'opportunité de mettre la main sur des mecs qui ont travaillé sur les algos et sur le développement de Twitter.
Bien sûr.
Ça, on le sait, dans le petit milieu de la Californie et de la tech, débaucher des ingénieurs d'un concurrent, quand l'opportunité se présente, c'est un véritable trésor de guerre et ça a dû permettre l'accélération de ce qui était peut-être un side project, mais ça a dû accélérer les choses. Et Elon Musk devient rouge de colère, il en va jusqu'à vraiment des réflexions extrêmement grivoises qu'il va falloir mesurer la taille des pénis pour savoir qui va gagner la guerre du truc, et des attaques plus insidieuses en disant mais en fait, Threads, ça va être le monde de la pub et du consensus et du contenu filtré. Sur Twitter, ça sera la liberté de dire ce que vous voulez. Il est déjà en train d'essayer de se positionner par rapport à Threads en disant Threads, ça sera
La bien-pensance.
La bien-pensance du moi, capitalisme.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Et vous serez censuré dès que vous sortirez des trucs. Mmh. Alors que Twitter, je vais aller jusqu'à mon projet de la libre expression totale, où même les gens les plus toxiques auront le droit de s'exprimer. Mais justement, c'est la question que j'aimerais vous poser. C'est pas là où ils se font un doigt dans l'œil. Est-ce que les gens veulent vraiment, d'un réseau social, full liberté en vrai? Marion, Guillaume?
C'est compliqué parce que je pense qu'on a... Là, ça dépend de tes opinions et de tes visions du monde, de tes aspirations politiques, de plein de choses. Nous, on sait d'expérience par nos métiers que la totale liberté d'expression ne peut pas marcher parce que tu ne peux pas laisser des choses racistes, homophobes, machin, être publiées en ligne. Donc... À partir de ce moment-là, non, je crois pas. Enfin, voilà, moi, mon ressenti là-dessus, c'est que je veux pas d'un réseau où je peux voir des insultes homophobes, racistes, ou même, on va dire, de la méchanceté bas du front. Tu vois, en fait, c'est rigolo deux minutes, mais c'est hyper fatigant, la méchanceté et les attaques un peu. Ce qu'il a dit, là, les attaques en disant on va comparer la taille de nos zizi, les attaques en utilisant certains termes comme cuck, qui se traduit en français par cocu. Qui sont aussi des rhétoriques assez puantes. Donc non, tout ça, je crois que c'est pas tip-top, quoi. Et je pense que c'est là où, pour le coup, moi, Threads, en arrivant dessus, j'ai un peu eu cette sensation de retrouver un endroit... Alors, on met tout le côté le problème vie privée et tout, mais de retrouver un endroit où, effectivement, j'ai l'impression que les gens sont là peut-être plus pour passer un bon moment, c'est très vague dit comme ça, mais au moins pas se faire alpaguer d'un coup sur et se faire attaquer très violemment. Voilà, après on verra comment les choses évoluent, hein. J'ai pas on peut pas prédire le futur, peut-être que Twitter refera un revirement à nouveau, hein. Musk est totalement capable de ça, mais moi j'ai un peu la sensation que ouais, Twitter est en train de partir dans une direction qui me plaît pas du tout, et ce côté très liberté d'expression, on autorise tout machin, j'y crois pas. Peut-être Marion a une vision similaire, différente, je sais pas.
Toi, Marion, Twitter, tu l'utilises encore ou...
Non. Non. Mais ça fait plusieurs... Enfin, maintenant, même plus d'un an que je l'ouvre de temps en temps. Mais même pas une fois par semaine, c'est pour dire, quoi. Donc, je suis insignifiante et surtout pas intéressante pour Twitter, maintenant, en termes d'utilisateurs. Mais c'est une question difficile, et c'est vrai qu'en France, on a vraiment cette notion de la liberté des uns s'arrête à la limite de la liberté des autres. Et c'est ça, le vivre en communauté, pour moi. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Et donc, quand tu te permets des propos haineux, agressifs envers les uns, tu empiètes. Ou envers les idées des uns, tu empiètes sur les libertés de ces personnes-là aussi, ou en les empêchant de s'exprimer. Donc c'est un débat assez compliqué. C'est vrai qu'au niveau des États-Unis, ils traitent la liberté d'expression d'une manière très extrême, autorisant un peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que finalement ça va laisser des propos violents, haineux, qui vont rendre silencieuse et censurer finalement une partie de la population. Et donc là, on voit combien ça peut impacter la liberté de certains. Maintenant, on n'a pas réussi encore à craquer la modération, hein. Enfin, je sais, ouais, pas ce que vous en pensez, mais la modération, on revient toujours à ça, et on n'a pas un seul réseau social qui a encore craqué une modération qui fonctionne parfaitement.
Non,
voilà.
C'est
donc après,
vrai.
On peut mettre en place des éléments qui vont limiter les effets néfastes qui entraînent ces rhétoriques de haine que l'on peut voir circuler sur Twitter, notamment avec, on en discutait avant l'émission, Jérôme, mais c'est ce qui va créer la polémique, et ce qui crée la polémique, c'est souvent des avis ultra tranchés, jamais nuancés, et souvent négatifs ou violents. Est-ce que ça va être limité? Comment ça va être fait?
Ouais, ben justement, le patron d'Instagram, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai mélangé mes fiches, mais précise que effectivement leur ambition, en tout cas pour Threads, c'est que Threads ne sera pas fait pour l'actualité et la politique. Et avant de réagir à ça, parce qu'on a envie de dire, mais c'est pas possible d'empêcher l'actualité et la politique. En gros, ils vont pas dire dès que tu parles de politique ou dès que tu parles de l'actualité, tu seras censuré. Mais par contre, il y a une chose, et là, j'invoque Barack Obama, qui disait une chose qui était très importante, je trouve, à comprendre dans l'ambiance de Twitter et des réseaux sociaux. De laisser les gens dire ce qu'ils veulent, c'est une chose. Mais ensuite, comme tu le disais, Marion, promouvoir un certain type de contenu, parce que c'est du contenu qui marche, c'est autre chose. C'est-à-dire que laisser les gens être toxiques, c'est un problème en soi et ça pose des problèmes de censure très compliqués, parce qu'il faut presque regarder quel est l'émetteur, trouver chaque émetteur d'une parole toxique pour le bloquer. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de se dire « je veux diminuer la toxicité, la violence et la provoque sur mon réseau. Donc, mon algorithme n'est pas écrit dans le sens de « je fais remonter ce qui génère le plus d'interactions ». Et on le sait aujourd'hui, ce qui génère le plus d'interactions, c'est la violence.
Bien sûr.
C'est la polémique.
C'est l'émotion.
C'est les bad buzz, c'est l'émotion toute crue. Et les gens surenchérissent les uns sur les autres. Et on se retrouve avec une pile de caca. Et pourquoi pas, essayons d'y croire, 5 minutes, Threads pourrait se dire, justement en positionnement vis-à-vis de Twitter, nous, notre algorithme ne vous empêchera pas de parler de politique et d'actualité, mais dès que vous voudrez partir dans la polémique, dès que vous sortirez des choses border, notre algorithme ne promeuvera pas votre contenu, ne le fera pas remonter. Et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ça me paraît quelque chose de beaucoup plus simple à faire que d'essayer de modérer chaque utilisateur. Déjà, de modérer l'algorithme pour qu'il empêche le contenu trop violent d'émerger tout le temps.
Et surtout que maintenant... Ah, pardon, vas-y Marion.
Comment tu qualifies un contenu de violent?
Alors,
en fait
c'est là où...
C'est ça, en fait, la difficulté. Parce qu'en fait, il faut quand même réaliser l'ADN même de Twitter ou de Threads, c'est que c'est basé sur un fil chronologique. Alors, plus exactement, parce que voilà, et les utilisateurs s'étaient élevés contre ça sur Twitter, mais principalement sur quand même la notion de flux chronologique et sur le fait que tu vas rater ce qui s'est dit dans la journée, etc., ce qui te donne envie de venir plusieurs fois sur la plateforme pour voir qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Donc en fait, l'ADN même du réseau social est fait que revient sur le réseau social pour ne pas manquer les trucs intéressants. Les trucs intéressants, par définition, c'est ce qui trend, ce qui fait parler, ce qui attire. Donc, oui. Il ne suffit pas de dire on ne va pas privilégier le contenu qui fait beaucoup parler. Mais il ne faut pas promouvoir le contenu qui fait beaucoup parler et qui est violent.
Oui, c'est
tout
ça.
Simplement le contenu violent. Oui. Et donc, en fait, ça, c'est assez subjectif. Enfin, je ne suis pas une experte sur le sujet, mais d'une part, je sais qu'il y a des outils qui permettent de détecter si un commentaire est positif ou négatif, mais il y a d'autres éléments où les gens utilisent des stratégies et des codes pour... quand même porter atteinte aux gens en les insultant en utilisant des mots-clés que eux connaissent.
Alors,
est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas être une recherche de whack-a-mole, Guillaume?
Ouais, non, mais alors c'est une très bonne réflexion, mais si je peux un peu intervenir là-dessus, parce que il y a une grosse différence avec Twitter d'il y a 10 ans et Twitter aujourd'hui, ou en 2023 en tout cas, c'est qu'on a fait des progrès absolument monstrueux sur l'intelligence artificielle et le machine learning, et aujourd'hui, on est complètement capable d'avoir des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Mais l'IA est un algorithme, donc en fait, on va dire algorithme, qui est capable de détecter, de façon très efficace des mots-clés, des tendances, des expressions qui peuvent être extrêmement agressives, qui ne paraissent pas comme ça, mais qui peuvent l'être. En fait, aujourd'hui, on a complètement les outils pour amener à détecter ces contenus-là. Et après, le but, ça ne va pas être de les censurer, mais effectivement, je suis assez d'accord avec Jérôme. Le but, ça va être de jouer sur des crantages et des molettes. C'est-à-dire de dire, s'il y a eu on va prendre un cas grave, un attentat en France et qu'il y a ce genre d'événement compliqué, Le but, ça va évidemment pas de couper cet attentat et de couper certaines réactions, mais de juste peut-être un peu réduire ce crantage, mais juste un tout petit peu, pour qu'un utilisateur qui arrive sur Threads voit pas que ça. Par exemple, voit aussi son pote qui est allé se faire un resto sympa. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, par exemple, sur Twitter, s'il y a une tendance un peu forte, honnêtement, un fil Twitter, il est bondé de cette tendance en permanence. Et donc, je pense que tout se joue effectivement sur des petits crantages. Là, j'ai pris un cas extrêmement fort, mais on peut penser à des faits divers. Tu vois, sur des crantages de faits divers qui, en plus, journalistiquement parlant, peuvent être discutables. Moi, je pense qu'on peut, avec cette détection-là, jouer. Et je pense, en fait, je vais même aller plus loin. On n'a pas le choix. Si on veut un endroit où on veut à peu près discuter sans se taper dessus et sans finir mal, on n'a pas le choix d'utiliser la technologie pour améliorer tout ça.
Et moi, j'ajouterais deux choses. D'abord, nous, en tant qu'êtres humains, et moi, pour être un utilisateur de Twitter depuis les débuts de Twitter, j'arrive, et pourtant, je n'ai pas une intelligence exceptionnelle, même si elle est naturelle, j'arrive en lisant un seul tweet à quasiment savoir que ça va partir en sucette. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, on a quand même l'impression qu'Elon Musk a pris une décision de business model de favoriser les polémiques, de favoriser les prises d'empoigne. Lui-même, dans le vocabulaire qu'il utilise, il était très fier que les... Il fait exprès de dire des trucs offusquants, genre, on va mesurer là, parce qu'il sait que ça va être retweeté. Donc, c'est la preuve que son business model repose là-dessus. C'est-à-dire sur les messages qui seront toujours les plus performants au monde, c'est-à-dire les messages d'indignation. On a trouvé finalement la recette secrète pour faire de l'argent, c'est le message d'indignation. Est-ce que Meta va avoir le courage, on va dire, industriel et économique, de dire nous refusons la facilité de mettre en avant ce contenu dont on sait qu'il marche. On a l'expérience de Facebook, hein, parce qu'ils ont eu leur lot de bad buzz et de polémiques autour de ça. Et bien, Friends, on va faire les choses autrement. On fera peut-être moins d'argent. Le réseau social sera... Mais au moins, il sera un peu plus safe. Tout le monde aura le droit de parler. Ça ne sera pas l'empire des trolls.
Et là, il faut rebondir sur quelque chose. C'est ce que tu disais avant qu'on prépare l'émission. C'est que si Threads déclare que ce n'est pas fait pour l'actualité, la politique, c'est pour les annonceurs.
Mais exactement.
Voilà, évidemment.
En fait, là où Marc peut être très, très malin, c'est qu'en fait, le gros problème aujourd'hui que Twitter a, c'est pas... les concours de kékettes d'Elon Musk ou ce genre de choses, le problème, il est bassement économique. D'abord, ils sont en chute libre de trafic du réseau, oui. Ça c'est l'ambiance, mais surtout, ils sont en chute libre d'annonceurs. Et aujourd'hui, le réseau qui va gagner, c'est pas celui qui sera le plus cool, c'est pas celui qui sera le plus puissant, c'est pas celui où les gens parleront le plus. Le réseau qui va gagner, c'est le réseau où il y aura le plus de pubs. Je sais que ça va pas plaire à certains qui nous écoutent que je dise ça, mais en fait, aujourd'hui, de tout temps sur Internet, l'idée, c'est pas d'être le plus gros. L'idée, c'est d'avoir le plus d'annonceurs quand t'es un service gratuit. Hein. Donc, là-dessus, et c'est pour ça que je posais la question, mais c'était une question rhétorique, est-ce qu'ils auront le courage de faire un réseau avec une forme de modération et de résister à la tentation de faire émerger le bad buzz parce que c'est ce qui marche le plus? Bah oui, parce que c'est ce qui éloigne les annonceurs. Le bad buzz et l'ambiance pipi-caca actuelle de Twitter, ça fait fuir les annonceurs. Donc ça va être facile pour Mark Zuckerberg de se dire... Ben oui, ça sera plus modéré parce que les annonceurs viendront. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Marion. Ouais.
C'est intéressant parce que du coup, il y a une espèce de retour en grâce de Meta.
Oui, oui, je suis d'accord.
Et c'est marrant parce que justement, encore pour revenir sur le fait que c'est une application Instagram. C'est pas une application Facebook, c'est pas une application Meta, c'est une application Instagram. J'ai l'impression que c'est le dernier service ou la dernière marque du groupe Meta qui a encore une réputation positive. Bon, Facebook, n'en parlons pas. Meta, tout le monde raille Meta parce que le métaverse, leur casque Oculus, machin, tout le monde se dit, bah, ils se sont mis la tête. Enfin, voilà, ça va pas forcément fonctionner et compagnie. Enfin, il y a peu de confiance sur le fait que ça va fonctionner. Et donc, du coup, finalement, la dernière marque qui fonctionne, c'est Instagram et c'est justement ce qu'ils ont utilisé pour lancer Threads. Est-ce que c'est un hasard J'y crois pas trop, mais il y a quand même un vrai retour en grâce de la boîte et je trouve ça assez intéressant.
Ouais, si je peux donner un peu mon ressenti là-dessus, c'est vrai que moi j'ai 30 piges, donc je suis vraiment entre les gens qui ont la vingtaine et les gens qui ont la quarantaine.
T'es vieux quoi.
Ouais, je commence, aïe aïe aïe. Et tout autour de moi, en fait, je suis d'accord avec toi Marion, je partage Instagram, pour les potes les plus jeunes aux potes les plus âgés. C'est un peu un réseau transversal, c'est un réseau qui n'est pas puant, c'est un réseau qui garde encore ce côté cool. Moi j'ai toujours encore plein de potes qui font des petites stories, qui partagent un peu leur vie perso dessus. Bon, moi ça me fait mal à la vie privée, mais c'est comme ça. Mais effectivement, ça a encore un côté très cool, donc tu as raison de souligner le fait que c'est pas anodin que Threads soit une appli Instagram et pas une appli Facebook, pas une appli... feu métaverse, pas une appli, tout ça quoi. Donc je partage.
Comme quoi, hein, c'est un monde un peu comme le cinéma hollywoodien, il peut y avoir des comebacks. Ça rend la tech passionnante parce qu'il n'y a pas d'empire immortel, mais il n'y a pas de chute non plus irréversible. Peut-être que ça va être un retour en grâce. Mais alors, est-ce que ce n'est pas un retour en grâce effet de mode? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode? Et ça va être un peu la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode Threads qui fait qu'on en a marre Twitter, donc on a tous téléchargé Threads, à en oublier tous les dangers qu'il y a derrière. C'est-à-dire, tu parlais de la vie privée, je veux dire, Meta nous a montré que c'est une des pires sociétés quand même en termes de respect de l'utilisation de nos données et que tout leur business model comme Google est basé sur la revente d'espaces publicitaires qui sont créés grâce à nos infos personnelles. Là, on a vu des screenshots de tout ce que Threads allait nous prendre comme données et les additionner à ce qu'ils savent déjà sur Instagram. Ouais. Est-ce que c'est... Et nous, on a fait un short là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer de Caribassi là? Est-ce que le breuvage risque d'être encore plus... plus dégueulasse pour nous que le mot, enfin que la maladie Twitter? Est-ce qu'il y a une forme d'inconscience juste parce que c'est facile de se connecter? Est-ce qu'on n'est pas en train de se jeter dans les bras d'un système dont on ne veut plus? Parce que, comme vous disiez depuis le début de l'émission, on n'est plus 10-15 ans en arrière. Mmh. On a appris, aujourd'hui on se traîne des casseroles au cul avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve là, dans ce succès de Threads, et même succès français, alors que normalement, on ne devrait pas pouvoir la télécharger, ça, on va en reparler, parce que justement, la Commission européenne, enfin, l'Europe commence à dire, mais attendez, vous allez faire quoi, là, avec Threads? Prendre encore plus d'infos que vous n'en avez? Donc, c'est la raison pour laquelle Threads n'est pas en Europe, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de naïveté autour de cet enthousiasme de Threads? Est-ce que les gens ne sont pas en train de se jeter à corps perdu dans un truc qui peut être finalement assez dangereux, quoi. Marion, un avis là-dessus?
Ben, ça fait l'actu.
Ouais.
Pour moi, ça fait l'actu, les gens s'excitent un petit peu. Aussi, on est dans la sphère tech, hein, donc je pense que c'est quand même assez limité à la sphère tech, faut pas non plus...
Ouais, mais 100 millions d'utilisateurs, on a largement dépassé la sphère tech. Hein.
Oui, enfin... ouais, je... Non, mais... Je n'ai pas de réponse, en fait. En fait, il y avait une envie, un besoin, un service qui ne répondait plus aux utilisateurs. Et donc, ça fait plusieurs mois que les gens sont mécontents, qu'ils cherchent autre chose, etc. Donc ils vont tester, ils vont essayer d'utiliser des choses qui pourraient potentiellement répondre. Quand tu as un espèce de clone de Twitter qui sort et qui, en plus... utilise déjà un compte que tu as, tu vas te dire, bah, en fait, tu as déjà un compte. Donc, tu ne donnes pas plus d'informations. Tu as déjà un compte à créer tes infos, etc. Sauf qu'en fait, oui, tu vas donner plus d'informations parce que tu vas interagir, etc. Sur un autre réseau social. Sur un, voilà. Mais en fait, les gens, quand ils utilisent ce genre de service, ils acceptent ça. Ils le faisaient sur Twitter. Pourquoi ils ne le feraient pas sur Threads? Donc voilà, et en fait ils vont remarquer que potentiellement ils vont voir des pubs encore plus intéressantes sur Instagram, potentiellement. Donc je suis pas sûre que ça gêne tant que ça les utilisateurs.
Pour moi, ça montre deux choses. Ça montre que, un, les gens s'en foutent toujours de la vie privée, et de deux, on est des animaux sociaux. Et en fait, la pression globale, hein, mais ça a été étudié en sociologie dans plein de choses, la pression globale de vouloir être in, de vouloir être...
Bah, le fameux FOMO.
Oui, d'être dans le coup. Ouais. En fait. Et nous, bon,
FOMO, Fear of Missing Out, la peur de ne pas être sur Threads alors qu'on en entend parler autour de nous, quoi.
Oui, moi, j'ai des connaissances qui m'ont dit, ouais, niveau vie privée, ça fait chier. Et deux jours plus tard, ils ont installé.
Mais nous-mêmes.
Alors oui, mais après, là, c'est parce qu'on prépare aussi le.
Ouais,
je l'avais pas installé avant.
Oui, et d'ailleurs, j'aimerais juste profiter pour donner un petit message de prévention. Parce que moi, je l'ai installé sur Android, mais j'ai essayé de l'installer sur iOS. Sachez quand même que vous pouvez le faire sur iOS en vous déconnectant de votre compte, mais un truc que j'avais complètement oublié et qui m'énerve, c'est que quand vous faites ça, vous perdez toutes vos cartes bleues, enfin vos cartes bancaires qui sont configurées Apple Pay, il faut toutes les refaire. Juste sachez-le avant de vous ruer sur la méthode pour le mettre sur votre iPhone, Threads, que vous allez devoir reconfigurer toutes vos cartes bancaires en Apple Pay, ce qui est pénible.
Ce qui est hyper pénible aussi, c'est qu'il n'y a pas de site web pour le moment. J'aurais aimé pouvoir l'utiliser depuis un navigateur web plutôt qu'autre chose.
Alors, ça, c'est, on le dit aussi, ne vous ruez pas ceux qui nous écoutent. Ne vous ruez pas sur Threads. Le petit groupe là que je vois au fond qui dit « Ouais, il faut que tout le monde aille sur Mastodonte ». Restez sur Mastodonte parce que Mastodonte sera compatible avec Threads.
On verra,
mais ça a l'air dans les tuyaux quand même.
Moi, c'est un truc, est-ce qu'on en parle maintenant ou
Là, je voulais parler justement de tout ce qui va arriver sur Threads. Parce que pour l'instant, ce que je voulais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous rouez pas, laissez-nous faire, c'est notre métier. Ne faites pas ça chez vous. Le réseau est pour l'instant très vide, c'est un squelette. Depuis le début de l'émission, on vous dit que c'est un minimum viable product.
Ouais.
Il manque énormément de choses. Vous n'aurez pas les emojis, vous n'aurez pas les hashtags. Il y a énormément de choses qui manquent. Il n'y a pas les DM, enfin les messages privés.
Ce que j'avais noté, c'est surtout là en ce moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vous allez avoir beaucoup de trucs en anglais. Et ça, bon, pourquoi pas, mais vous allez surtout avoir beaucoup, beaucoup de tweets recommandés, en fait, de profils que vous ne suivez pas. Et la majorité des posts que j'ai vus, c'était des trucs très, moi j'appelle ça bullshito positif, du genre aime la vie, elle te le rendra, ou dans mon job, j'ai fait ça et ça m'a décuplé mes performances. Enfin voilà. Presque un peu LinkedIn, ou alors des posts très adolescents. Tu sais, par exemple, moi, je suis à 4h du mat sur mon téléphone, mon réveil est à 8h, je vais souffrir demain matin. Enfin, j'ai vraiment vu beaucoup ces contenus-là. Voilà, et pas de contenu, même des quelques comptes que je suivais ou quoi, pas très très peu. C'est que algorithmique pour l'instant. Marion, je t'ai entendu agir.
Pic sur LinkedIn, il était bien senti, là.
Non, j'aime énormément.
La performance, c'est ce que tu aimes.
Non, mais il y a une petite mélodie LinkedIn.
Oui, je suis d'accord que. Et c'est très drôle d'ailleurs de voir certains, la manière dont ils postent sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux, ils n'ont pas du tout ce ton.
Non, bien sûr.
Il y a une grammaire LinkedIn. Pour rester dans le sujet et Marion, est-ce que tu penses que là, il y a une petite période de grâce dont il faut se méfier? C'est-à-dire, le réseau, tu le disais. Te paraît, tu retrouves, c'était toi ou Guillaume, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave, on retrouve une espèce de pureté du début d'un réseau où il n'y a pas encore... pour l'instant, par exemple, sur la collecte de données, il n'y a pas de collecte de données pour l'instant. Ouais. Le réseau est vraiment en bêta. Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que ce n'est pas un miroir aux alouettes, ça, ce qui se passe actuellement sur Threads?
C'est la vie d'un réseau social, quoi. Je pense que, enfin, pour le coup, là, je pense pas que ce soit calculé en tant que tel. Mais oui, c'est le début. Donc on s'enthousiasme. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Vu qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a potentiellement pas une certaine population avec qui on n'est pas forcément en accord sur les vues, etc. Et ça nous fait des vacances.
C'est clair.
Mais,
c'est
vrai. Mais est-ce que ça va durer comme ça? Si Twitter continue à perdre de la vitesse et que de moins en moins de personnes vont dessus, si tu vas sur Twitter ou sur Threads, c'est pour avoir de la visibilité et échanger avec les gens. Donc si finalement les gens partent de Twitter, tu vas avoir cette population qui va arriver sur Threads de manière très logique. Tu ne vas pas leur fermer la porte. Donc... voilà, à voir comment ça va évoluer. Je dirais pas naïf, mais en effet, il va falloir faire attention à voir comment ça évolue.
Ouais. Et par rapport à tout ce qui est justement faits divers, open source, communication avec les autres instances, effectivement, à la base, Threads, Threads est basé sur un peu les systèmes similaires à Mastodon, ActivityPub, Fediverse et ce genre de technologies-là. Et, mais pour l'instant, là où on est aujourd'hui, Threads ne les intègre pas. C'est-à-dire, là aujourd'hui sur Threads, on ne peut pas communiquer avec des instances Mastodon ou d'autres serveurs, d'autres communautés. Et c'est là où j'attends de voir vraiment le futur. Parce que, personnellement, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à voir un monde où tu peux communiquer de l'instance Threads à une instance Mastodon différente. Je ne vois pas un monde dans lequel ça peut arriver. Peut-être que je me gourre et tout ça, mais si tu veux, même en termes d'interface, tu vois, je n'arrive pas à visualiser comment rendre ça clair pour une personne qui vient d'Insta et qui s'en fout et qui veut juste poster 2-3 photos rigolotes et discuter avec ses potes. Voilà, est-ce qu'il y aura un mode avancé sur Threads d'ici un an où on pourra faire ça, je ne sais pas. Mais ouais, très, très curieux, c'est d'autant plus curieux que quand tu t'inscris à Threads, il te parle de Mastodon dans l'inscription. Ça, je suis vraiment tombé de ma chaise quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah bon ? Genre, vraiment ? On parle de Mastodon dans Threads ?
Manquerait plus qu'ils disent que ça tourne sur Linux et tu vas t'effondrer.
Non, mais c'est la folie. Non, en vrai, je kifferais. Il y a une part de moi qui aimerait aussi, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, très très étonnant le fait d'avoir fait un clin d'œil à Mastodon. Je sais pas pourquoi, je suis très étonné.
Ce qui peut être intéressant, moi qui suis beaucoup moins tech que toi, mais je rebondis, et pour clôturer le sujet sur ce qu'a dit Marion, c'est intéressant que quelqu'un comme Mark Zuckerberg, qui est CEO quand même de cette entreprise, donc qui donne son empreinte au futur de son entreprise, c'est quelqu'un qui... Bon, il y est encore beaucoup, hein. Il est dans la vallée de la mort. Il s'est pris des torrents de boue, il s'est fait traîner dans la boue, et a raison. Il a fait des erreurs énormes. Ça sera intéressant de voir si ce réseau, pour lui, par opportunisme, probablement, parce que c'est une entreprise, mais aussi dans une démarche personnelle, il ne va pas faire des choses qu'il n'aurait jamais fait avec Facebook et Instagram, faire quelque chose de plus ouvert, peut-être de moins greedy, mot anglais qui veut dire
Cupid.
Que pour l'argent, Cupid. Merci, je cherchais. Ouais, ouais. Peut-être, voilà, il y voit peut-être un signe d'un renouveau de son image. Là où Elon Musk, bah, lui, il est en train de rentrer dans sa vallée de la mort, du bad buzz. Elon Musk était l'enfant prodige, et qu'on, finalement, moi je le découvre depuis 2-3 ans, un aspect que j'aime pas du tout. Alors qu'avant, pas que je l'adulais, je l'ai jamais adulé, mais je savais pas qu'il était dégueulasse à ce point-là. Quoi,
ouais.
Donc, ça va être intéressant à ce niveau-là, deux personnalités qui s'affrontent à travers deux grandes entreprises, 2023-2024, ça va être passionnant.
Et en rappelant que ces personnalités ne sont pas vos amis.
Voilà, ouais. Et qu'ils ne se battront probablement pas à Las Vegas, contrairement à ce qu'ils disent.
Très probablement pas.
Ces milliardaires devraient fermer un petit peu leur bouche. Ils nous fatiguent avec leurs histoires.
Il y a une forme d'indécence.
Oui, c'est un petit peu indécent. Et ce qui est indécent aussi, c'est la France. J'enchaîne un petit peu sur les articles pour qu'on parle aussi d'autre chose que Threads, même si on aura encore beaucoup de choses à dire. J'avais prévu d'en faire un deuxième dossier, mais on ne va pas avoir le temps. Mais effectivement, c'est un peu la suite de news qu'il y a eu ces deux dernières semaines. On va dire la tentation française de plus de contrôle sur Internet, ce qui fait un peu suite aux événements qu'on a eus en France, aux émeutes, hein, pour ne pas les citer. Thierry Breton confirme dans un article récemment que tout ce qui serait d'appel à la révolte serait de plus en plus contrôlé. Et l'idée, c'est aussi de tacler les réseaux sociaux eux-mêmes, pas forcément les utilisateurs. Là, je dirais qu'il y a peut-être une idée intéressante en rebondissant sur cette idée de peut-être tacler les réseaux sociaux qui promeuvent, décidément, je me lance dans des mots compliqués, mais qui promeuvent ce genre de contenu parce qu'on va tout cramer, ça buzz bien, donc on peut mettre des pubs dessus.
Passe-moi l'IOP, machin.
Ou passe-moi l'IOP, etc. Ouais. Peut-être demander au réseau de calmer leur algo à ces moments-là. Tu vois, pour moi, il y a peut-être un truc intermédiaire entre surveiller les utilisateurs et ban les gens qui disent des mots, genre appel à la révolte. Mais je pense qu'il y a un grand âge qu'on devrait vraiment mettre en place, c'est limiter la promotion de ce type de contenu à des moments donnés. Et je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, je voudrais votre avis là-dessus, est-ce que ce n'est pas cet entre-deux qu'il faudrait? Parce que oui, on sait que les réseaux peuvent être dangereux dans ce genre de situation. On sait aussi que trop contrôler les réseaux, ça peut être très dangereux aussi, hein, parce que c'est État totalitaire, censurer Internet, un fantasme de certains États, mais c'est liberticide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux, moi, que je vois, c'est de dire arrêtez de promouvoir la violence dans vos algorithmes.
Marion, bon courage si tu commences.
c'est sujet de philo, de bac de philo. Vous avez 4 heures pour rédiger là.
Non, mais même
je pense que tu enfin, à un moment donné, ça tient au comportement humain aussi, et on trouvera toujours des manières, je pense malheureusement, de faire exprimer certaines pensées qui sont pas très constructives ou positives. Maintenant, il y a toujours un équilibre entre l'État qui va vouloir avoir plus de pouvoir ou contrôler un peu plus ou avoir plus d'accès et de visibilité, et la liberté du peuple. Et là, en effet, c'est assez inquiétant les actions de la France. Enfin, les tentatives de la France. Et surtout, ça s'apparente à des tentatives que des États totalitaires auraient pu faire. Et donc, je suis, moi, personnellement, assez affligée de voir ça. Mais bon, ce n'est pas encore fait. Donc, il faut faire entendre sa voix et expliquer de manière constructive, posée et rationnelle pourquoi ce n'est pas la bonne approche. Mais je ne suis pas sûre que se dire... limiter la propagation de ce type de propos va marcher dans tous les contextes, va être comme une solution magique à tout ce qui se passe.
Oui, moi, c'est un peu
trop beau.
C'est un peu mon ressenti là-dessus, c'est qu'encore une fois, je trouve qu'on essaye de mettre des pansements sur des jambes ensanglantées. Désolé pour l'image pas très clean, mais en gros, là, il y a une maladie plus profonde, en fait, dans la société. Enfin, il y a un mal-être... beaucoup plus profond. On n'a pas le temps de rentrer dans des choses, on va dire, plus politiques et sociologiques, mais le problème qu'on voit beaucoup en ce moment dans les dérives sécuritaires, c'est comment définir ce qu'est une manifestation.
Ah, c'est ça, un appel à la révolte, c'est quoi?
Voilà, un appel à la révolte...
Achète-moi un yop, prends-moi un yop, est-ce que c'est un appel à la révolte déguisée, quoi?
Comment définir un propos... déjà, révolutionnaire n'est pas forcément un gros mot. Des choses peuvent être révolutionnaires, voilà. Par contre, dès qu'il va y avoir effectivement des violences et des choses comme ça, là, on rentre dans des choses plus compliquées. Mais c'est extrêmement difficile de définir ce qui est un contenu qu'il faut censurer ou pas. On a la même problématique avec ce qu'on définit comme terroriste. Et en ce moment, la France, par exemple, a tendance à inclure beaucoup de choses dans le champ du terrorisme, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus discutable, notamment sur les parties écologie, sur des choses comme ça, où là, on peut avoir des débats plus profonds. Je suis pas en train de faire la promotion, je dis juste que ce sont des débats qui sont très compliqués. Donc voilà, comment l'État français peut dire, lui qui va dans la rue, ce gars comme il a tweeté, je vais dans la rue, on se retrouve les potes, ça va pas. Et la personne qui... tu vois, comment tu définis qu'un message est...
Les carottes sont cuites comme message de code.
Alors, certains vont se dire, au début, j'ai parlé d'IA qui pourrait analyser ça. On pourrait me rétorquer ça et ça ne serait pas forcément une mauvaise réponse et un mauvais commentaire. Mais là, on touche vraiment à des choses... à des choses extrêmement, extrêmement sensibles. J'ai pas de réponse claire.
C'est pour ça que moi, j'amène un petit peu mon idée. Si on modère déjà... La promotion des algorithmes, quand il y a une situation de violence dans un pays, si au lieu de dire on va traquer les utilisateurs qui font des appels à la révolte, on décide déjà que l'algorithme, on le calme pour qu'il arrête de faire trender des trucs qui traînent trop et qui sont visiblement en lien avec le fait, pour moi... Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une censure totale parce que tu n'empêches pas les personnes de s'exprimer ou de faire des appels à la révolte, mais tu évites un petit peu que peut-être que ces appels à la révolte touchent des gens qui ne les auraient pas suivis s'ils ne les avaient pas vus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais certains te rétorqueraient que c'est quand même une forme de censure détournée.
Oui.
Bien sûr. Et surtout, moi, le deuxième et dernier problème que je trouve à ça, c'est que les personnes vont changer de réseau. Si elles commencent à se sentir menacées au niveau de leur liberté d'expression, elles vont changer de réseau. Elles vont juste plus faire les appels sur Snapchat, sur Twitter, sur ce genre de choses. Et ce que je veux dire, c'est que des vraies personnes violentes vont juste passer sur des choses beaucoup plus chiffrées.
Oui, mais...
Et donc, en fait, on déporte le problème et on radicalise une partie des gens en les déportant sur d'autres réseaux.
Alors,
sur d'autres
je suis
réseaux.
D'accord. On a souvent parlé de ce problème de chasser les gens. Bah, ils se regroupent entre eux. Mais je pense là, ce que le gouvernement français tente de faire avec beaucoup de maladresse, c'est d'éviter des phénomènes, notamment sur des personnes très jeunes, des phénomènes d'entraînement de personnes qui n'ont pas forcément les convictions de départ de certaines personnes, mais qui vont se laisser porter. On l'a beaucoup vu avec Snap pendant ces émeutes. En fait, il y a un moment où c'était même plus ni un problème politique ou social, c'était à qui ferait le Snap qui serait le plus mémorisé, tu vois. C'est ces phénomènes d'entraînement qui sont liés à l'algo, c'est ça que je veux dire.
En fait, le débat est extrêmement complexe parce que presque, je trouve, il est au cas par cas. C'est-à-dire
ça, c'est que je suis pas sûre que les phénomènes d'entraînement ou les challenges que tu vois sur Snapchat, etc., est-ce que tu peux tout qualifier de violent ? Pas forcément, de très bête, oui. Alors, il y a des challenges qui, malheureusement, étaient très dangereux et certains ont mené à des événements effroyables, mais tous ne sont pas comme ça. Donc, et puis, on a tous connu cet effet d'entraînement au collège, au lycée, etc. Là, c'est décuplé par les réseaux sociaux, malheureusement.
Et c'est décuplé par les algos.
Mais je ne suis pas sûre, encore une fois, que ça suffise. Je trouve ça un peu naïf, pour le coup, comme approche.
Ouais, mais moi, je dirais, voilà, je redis sur le cas par cas, c'est-à-dire que là, on a ce débat parce qu'il y a des émeutes extrêmement complexes en France. Mais tu vois, si on commence à autoriser le fait de pouvoir couper Snapchat, un gouvernement qui a ce pouvoir, il va le faire tout le temps.
Alors, c'est là où moi j'aborde une nuance. Justement, le couper
alors,
et tout
diminuer,
ça.
Non, mais diminuer
mais,
l'intensité.
Tu vois, c'est ce qu'ils disent dans l'article. Des algorithmes qui poussent, on le sait, ces contenus à forte viralité. C'est-à-dire, pas empêcher les gens de faire des snaps, ce genre de choses, pas couper, mais empêcher l'algorithme de promouvoir un contenu de forte viralité. Sur ces périodes-là, avec des appels à la violence.
J'entends,
en fait.
Mais là, on est dans le cas de ces émeutes. Mais avoir ce pouvoir-là de réduire le crantage et réduire la promotion de contenu, c'est un pouvoir extrêmement puissant. Et si ce pouvoir-là est réutilisé dans des manifestations, notamment, on l'a vu beaucoup, écologiques et ce genre de choses, parce que je trouve que ce sujet-là est important... c'est un pouvoir que je trouve démesuré. Et on le sait, la communication, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de plein
et qui
de
doit
de
avoir ce pouvoir ?
Et qui doit avoir ce pouvoir ?
Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que c'est une société privée ? Est-ce que c'est une société américaine qui n'a pas forcément exactement les mêmes valeurs que la France ? Qu'est-ce qui se passe si... encore une fois, c'est compliqué.
Ouais, mais c'est un peu ce qu'on évoquait avec Threads avant. C'est que Twitter promeut les contenus violents parce que ça marche pour eux et ça crée du contenu à forte viralité. Donc, on en vient à la même conclusion. Si Threads diminue un petit peu la promotion de ces contenus à forte viralité toxique, bah, voilà, on pourrait peut-être légiférer là-dessus, qu'un algorithme n'a plus le droit de promouvoir du contenu à forte viralité qui se base sur la violence. Je sais qu'après, on retombe toujours sur le même problème. Qu'est-ce que la violence ? Qu'est-ce qui définit ce genre de choses ? Et je trouve qu'il y a un entre-deux. Mais en tout cas, sujet passionnant. Sujet passionnant, probablement à aborder. Il faut qu'on avance dans l'actualité. Ce dont je voulais parler aussi un petit peu, que je retrouve un petit peu mes fiches, et surtout avoir votre avis, c'est sur ChatGPT. L'Europe qui pourrait lancer son propre ChatGPT, youpi,
oui.
D'ici 2028. C'est pas un peu tard, 2028 ? Quand on voit, alors je mets juste en contexte, en quelques mois, la progression de ces intelligences artificielles génératives, le plan de Bruno Le Maire, je prends ses mots, d'après le ministre, une intelligence artificielle européenne pourrait donner un coup de fouet à l'économie du continent, il va falloir tant de temps, enfin, Vous pensez qu'on va arriver quand tout sera fini ou c'est une chance pour l'Europe ?
Marion ?
Je pense qu'il y a déjà des initiatives qui sont en cours, forcément, vu l'excitation qu'il y a autour de ces intelligences artificielles. Après, il a été peut-être un peu maladroit en parlant de 2028. Mais est-ce qu'il faut lui en tenir autant vigueur que ça, autant rigueur que ça, je sais pas. Je m'attarderai pas forcément sur l'année 2028 pour être honnête. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont motivés et que l'Europe est motivée à avancer sur le sujet et que s'ils s'entourent des bonnes personnes et des compétences clés pour l'intelligence artificielle, ils comprendront très vite que 2028 c'est trop tard.
Ouais, moi, ce qui me fait un peu bizarre dans cet article, c'est que, quand on s'intéresse un peu à ces sujets-là, il y a déjà des outils pour avoir des ChatGPT open source qui existent, qui fonctionnent plutôt bien, pas au niveau de GPT-4, mais plutôt bien. Donc, en fait, en soi, l'Europe pourrait déjà. Enfin, l'Europe. En fait, c'est quoi l'Europe ? Enfin, c'est quoi là, l'Europe ? Quoi ? Qui ? Coup ? Hein ? Bon, bref. Donc. Mais on va dire, s'il y a un consortium européen qui bosse sur ces sujets, honnêtement, il suffit qu'ils apportent leur force à ces projets open source ou qu'ils forquent ces projets open source, qu'ils les reprennent, qu'ils développent leurs solutions par-dessus, etc. Et que ça soit, j'imagine, derrière proposé à des industries, à des choses... Oui, ok. Mais je trouve que là, j'ai l'impression de lire un peu des mots valises qui sont un peu creux, genre l'Europe, d'accord, qui... ChatGPT, c'est ok, c'est le chatbot aujourd'hui, mais on se rend compte qu'il est en train d'évoluer. Donc ChatGPT en 2028 ne sera pas du tout ChatGPT. Ok, en fait c'est un effet d'annonce pour dire on bosse dessus, machin, mais j'aurais pas donné une date parce qu'effectivement t'as malheureusement envie de te moquer. Alors, on a dit qu'on était bienveillant aujourd'hui, donc
mais
t'as envie de ça fait ricaner quoi. Voilà, je trouve.
Ce qui fait ricaner aussi, c'est des gens qui mettent des lunettes de ski pour
qui fait ça ?
Qui fait ça ? On va parler rapidement de l'Apple Vision Pro. On va pas revenir sur le débat. On sait que tu mangeras ton chapeau si jamais ça a du succès.
Guillaume,
tu l'as dit
officiellement. C'est un flop dans 3 ans.
C'est un flop dans 3 ans et vous êtes tous témoins. Guillaume mangera son chapeau.
Ma casquette.
Sa casquette. Mais on va parler du mode de distribution. Et ça a l'air de se compliquer un petit peu puisque l'Apple Vision Pro, les dernières rumeur, c'est qu'il faudra un rendez-vous obligatoire en Apple Store pour l'acheter. C'est-à-dire, on ne pourra pas le commander. Il faudra, notamment, si vous avez des problèmes de vue, envoyer avant une ordonnance, régler à votre vue, ce qui, ça peut être pas mal. Mais la rumeur serait qu'on ne pourrait que les acheter physiquement parce que Apple a besoin d'ajuster autour de votre tête, notamment cette fameuse histoire de la sangle supplémentaire qui serait a priori réservée pour les petites têtes. Et donc, moi, je me souviens à l'époque de la première Apple Watch. C'est un peu ce que Apple avait essayé de faire. Il fallait aller en boutique. Alors, ils avaient quand même sorti un truc pour mesurer son poignet soi-même à distance. Mais ils voulaient beaucoup, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'ailleurs, les premières Apple Watch étaient dispo aux Galeries Lafayette. Ils avaient essayé de s'étendre au-delà effectivement de leur réseau de distribution habituel. Donc, est-ce que vous y voyez juste une manière de limiter les ventes qui auront lieu que aux États-Unis, de nous obliger à aller en boutique. Est-ce que, ça vous inspire quelque chose ou pas, hein, d'ailleurs, cette histoire de devoir aller en Apple Store pour son Vision Pro.
Marion, je t'en prie.
Est-ce que c'est vraiment étonnant, en fait ? Je veux dire, quand on voyait les premiers témoignages de l'expérience d'essayage du Vision Pro lors de la WWDC, il y avait déjà un rendez-vous où justement c'était ajusté, où ils prévoyaient les verres, etc. C'est un peu comme chez l'opticien pour ajuster tes lunettes. Donc en fait, je trouve pas ça super étonnant. Je trouve pas ça non plus super problématique puisque c'est quand même un objet de niche. Surtout au début, surtout pour le lancement, surtout pour la première année de commercialisation. Mais par contre, ce que je trouve intéressant et que ça soulève, c'est que c'est en fait un casque vraiment pour une personne et non un foyer.
Ah, intéressant ça, oui. Oui, il sera ajusté à ta tête, quoi.
À ta tête, à ta vue.
Ouais. Mmh. Ah, encore un argument de plus en ma faveur, alors, bien sûr.
En vrai, normalement, les lentilles adaptées à ta vue seront extractibles, interchangeables. Mais par contre, là, tu as raison, c'est que s'il y a un haut niveau de finition sur l'ajustement de la tête et des sangles, mais là où on pourrait te contredire, c'est qu'a priori, les premiers à avoir testé l'OS, il y aura un mode partage qui te permet de faire utiliser le Vision Pro à quelqu'un d'autre. Donc, à voir. Mais c'est intéressant quand même ce que tu dis. C'est que pour une utilisation optimum, il y a manifestement des réglages physiques qui demandent à aller en Apple Store.
Oui, moi, ça ne me choque pas trop cet article. Je pense que là, tu vois, c'est un peu le genre d'article où on extrapole parce que c'est Apple. Alors qu'en fait, Marion a raison.
C'est l'extrapole.
L'extrapole, exactement. Mais Marion a raison. C'est assez logique que pour un produit comme ça, en plus, premier d'une nouvelle série,
et puis à 4 000 euros,
que tu aies un rendez-vous en Apple Store pour l'acheter, bon, ça me paraît pas.
Et surtout que c'est pas étonnant avec la stratégie aussi d'Apple de former ses premiers utilisateurs pour qu'ils soient ambassadeurs de leurs nouveaux produits aussi, oui. Tu vois. Ils font pas mal ce genre d'opérations où ils vont chouchouter les premiers utilisateurs et early adopters pour qu'ils aient une expérience optimale parce qu'ils savent que c'est eux aussi qui vont parler autour de ce produit et donc leur avis sera important. Donc je trouve pas ça choquant.
D'accord. Bon, non, mais à voir. De toute façon, oui. Comme tu le disais, ce ne sont que des spéculations, mais on adore spéculer sur Apple. Marion, je sais que tu vas devoir bientôt nous quitter. Donc, je vais mélanger un peu le sens des articles parce que j'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Ah. Toi qui es en train de vivre les déboires d'une installation de la fibre, c'est peut-être un article qui va te faire plaisir ou au contraire te faire dire « Ah, mais si j'avais su, on aurait fait autrement ». La baisse de prix de Starlink le positionne comme une option viable à la DSL. Donc, Starlink, c'est par satellite. Et là, c'est une baisse assez hallucinante parce que ça serait $40 l'abonnement. Donc, ça le met en concurrence frontale à des abonnements à la fibre. Est-ce que, alors je vais essayer de faire une question intelligible par rapport à tout ça, est-ce que vous pensez que le satellite peut être une solution, effectivement, pour tous les endroits où la fibre aura du mal, ou même remplacer la fibre comme solution plus souple d'installation, sachant qu'il faut quand même mettre une antenne? Faut avoir un jardin ou un toit, ce qui ne sera pas possible partout. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir Starlink. La baisse de prix, elle est drastique. Hein. C'était 450 euros avant pour le matériel. Là, c'est 199 et c'était 50 euros avant. Et c'est 40 euros pour l'abonnement.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc,
je me pose des questions, là.
Bah oui, tu te vois monter sur le toit, installer ton antenne satellite.
Bah, on a une cour.
C'est vrai. Mais la cour, est-ce qu'on arrivera à voir le satellite dans... On aura Internet juste le temps où le satellite passe entre les murs de la cour, tu sais.
Alors, ça ne fonctionne pas comme ça, je crois.
Bah, il faut le voir quand même, le satellite. Il faut être... Il faut quand même que ton antenne soit orientée vers le satellite.
Tu sais quoi, en fait, je ne vais rien dire parce que je ne suis pas du tout expert. Mais je sais que dans ceux qui écoutent, il y en a. Donc, on vous fait de gros bisous. Bien
voilà.
Sûr. Non, et pour réagir, oui, en fait, ils ont, j'imagine, réussi à faire baisser les coûts parce qu'ils arrivent à en produire plus à grande échelle. Donc, très bien pour les personnes, très bien pour les personnes qui ont besoin de ça. C'est cool de voir qu'Elon Musk arrive à faire un projet que les gens ne détestent pas. Moi, je trouve ça plutôt chouette. On peut lui souligner ça.
Après,
c'est pas le seul quand même. Hein, mais
non, mais je sais, je taquine.
Non, mais
ça rappelle que c'est quand même un businessman assez remarquable.
Qui parfois prend des très bonnes décisions, et notamment l'évolution technologique de la connexion par satellite, ce qui avant était une technologie de connexion très extrême, avec certains débits qui tu pouvais rien faire. Et là, notamment avec son réseau de satellites, alors je ne veux pas partir dans le débat de la pollution de l'atmosphère, enfin du tour de la Terre avec les satellites, mais avec un réseau bas, il a permis d'augmenter énormément les débits des réseaux satellitaires et les rendre, on va dire, compétitifs par rapport aux performances de la fibre. Donc, intéressant. Il ne faut pas jeter le satellite dans l'eau du bain avant de... Je me perds.
Dans l'eau de la stratosphère.
De la stratosphère.
Bien
tout
sûr.
À fait.
C'est sûrement pas le bon mot, mais c'est
donc,
pas grave.
Donc, on verra. Marion, on va faire encore 2-3 articles, mais si tu dois partir maintenant, je te laisse une porte de sortie ouverte.
Je vais l'emprunter du coup. Je vous remercie beaucoup. C'était hyper intéressant, des sujets passionnants et denses, comme on les aime dans le rendez-vous tech. Et je vous souhaite un très très bel été.
Et Marion, on te retrouve chez Naotech dans nos lives. Dans nos lives à la fin de la pause estivale en septembre.
Tout à fait.
J'en dis pas plus parce que nous sommes en réflexion de comment nous allons être présents. Là, c'est un spoiler qu'on donne à...
Non, il n'y a rien, il n'y a rien.
Mais pour l'instant,
il n'y a rien.
On se retrouve en septembre.
Voilà, Marion, des gros bisous.
Des gros bisous. Et nous, on termine avec deux petits articles avec Guillaume. Et très bonne journée à toi, Marion.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Deux petits derniers articles, histoire de quand même faire tout ce qu'on avait prévu, si je les retrouve. ChatGPT qui décline.
Il a pété.
Ils ont pété ChatGPT.
Ils ont pété. On a deux ans. C'est terrible.
Mais oui, on a deux ans. Marion, en plus, c'est parti, donc c'est le lâchage total.
Là, c'est parti.
Non, alors, moi, alors là, on est typiquement dans le genre d'article. Je clique. Quoi ? ChatGPT qui diminue. Les gens ne s'intéressent plus à l'intelligence artificielle. C'est fini. Et en fait, pas du tout.
Ah, alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Je te dis la conclusion.
Vas-y.
Je vous spoil l'article.
Oui, mais...
En fait, c'est juste que les étudiants sont en vacances.
Ah bah oui.
Bah oui. Bah en fait, c'est aussi bête que ça.
Ah, attends,
si
tu veux dire qu'ils ont fait du clickbait.
Non, parce que c'est intéressant de voir que des phénomènes saisonniers d'étudiants occupent une part assez importante dans ChatGPT pour contribuer à un petit mouvement de panique, genre une baisse de 10%. C'est significatif.
Mais c'est quand même du clickbait, parce que t'as l'impression que ChatGPT est en déclin.
Voilà.
Pas du tout. C'est juste un événement saisonnier.
Ouais, mais c'est intéressant quand même.
Non, mais c'est des filous. Non, mais ils ont filouté. Engadget, là, ils ont filouté. Voilà.
Mais après, on peut extrapoler aussi, est-ce que la hype de tout le monde qui utilise ChatGPT pour faire des recettes de pop-corn et savoir quoi manger avec sa boîte de sardines et des cornflakes dans le placard. Est-ce que cette hype retombe ? On va dire la hype grand public de ChatGPT.
Oui, la poussière retombe un peu, quoi. Ça s'aplatit. Je pense que en fait, ça montre que ChatGPT est utilisé par des personnes qui en ont besoin. Mmh. Et que forcément, là, les étudiants ne sont plus là. Y a une baisse de ChatGPT. C'est pas un produit dont tout le monde a besoin au quotidien aujourd'hui, en fait.
Nous,
tout simplement.
On s'en est aperçu sur YouTube. Quand on fait des vidéos sur le sujet, ça intéresse pas grand monde.
Non, ChatGPT intéresse pas. Je pense que c'est un produit quand même, moi je trouve aujourd'hui, plus pro que perso.
B2B comme
oui,
on dit.
Oui, dans le perso. Là, cite-moi instinctivement une utilisation perso.
Organiser des vacances.
Ouais, la limite.
D'ailleurs, on a fait une vidéo excellente sur 5 manières d'utiliser
ChatGPT. Oui, tout à l'heure, la pub horrible.
Non, mais en vrai, voilà, organiser les vacances.
Je l'ai fait et ça marche pas mal du tout.
Voilà, moi, je m'en sers quand même un petit peu dans la vie privée. Bon, les recettes, j'ai fait comme tout le monde, mais j'ai vite abandonné parce que c'est pas si bien que ça, je trouve, pour les recettes. C'est pas très intéressant. Je l'utilise beaucoup pour l'administratif personnel.
Ouais.
Ça, oui. Mais c'est vrai que c'est surtout une utilisation professionnelle.
C'est surtout une utilisation professionnelle. Donc, étudiant inclus, pour moi, c'est faux.
Et pour aller dans le sens de l'article, comme quoi l'article est absolument pas inutile, contrairement à ce qu'on a dit.
J'ai pas dit qu'il était inutile.
Je fais comme les réseaux sociaux. Je sors les outrants, bam.
Et Elon Musk, il va se calmer, là. Hein. Attention. Hein.
J'utilise plus Bing que ChatGPT.
Ah non, pas du tout.
J'utilise Bing, enfin, le ChatGPT. J'utilise pas l'appli ChatGPT.
Ben, moi, beaucoup plus.
Ah ouais.
Surtout parce qu'il y a les plugins, maintenant, qui sont sur ChatGPT.
Ouais, non, mais oui, mais toi, t'es à un niveau où je ne serai jamais.
Mais si.
J'adore bidouiller.
Mais les plugins sont super intéressants.
Ouais, non, mais déjà, tu me parles de plugins sur une intelligence artificielle. Tu as 3 ans d'avance sur moi.
Peut-être une prochaine vidéo, sait-on jamais ?
Oh bah là, on va faire au moins 40 vues. Les plugins de ChatGPT.
C'est vraiment sponsorisé par Naotech aujourd'hui. C'est terrible. Veuillez nous en excuser. Nous sortons d'une TwitchCon et nous sommes fatigués.
On devrait faire des vidéos comme du crowdfunding avec des previews. C'est-à-dire, vous garantissez qu'on aura une vue sur cette vidéo et on l'a fait.
On vous offre un goodies si
Non. Ah bah sinon, c'est toi qui fais les cartons, qui écrit les adresses.
Allez, c'est mon nouveau métier, c'est parti.
Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages.
En parlant de cartons, Est-ce qu'on parlerait pas de
du dernier carton, et on va vous faire un petit peu de feedback puisque nous étions à la TwitchCon, et puisque nous sommes présents sur Twitch, Patrick aussi.
À ne pas prononcer en français la TwitchCon, bien sûr. Hein.
Oui,
évidemment.
Ouais, ouais. Et effectivement, on a appris là-bas, sur place, il y avait le PDG, enfin le CEO de Twitch, etc. Ils ont fait des annonces, et notamment une qui aurait des stories. Qui est débarqué sur Twitch.
Ouais.
Quel intérêt ?
Pour nous, c'est assez intéressant. L'idée, c'est que les stories Instagram arriveraient sur Twitch. Donc, vous êtes un streamer. Vous voulez, par exemple, le matin, annoncer que vous allez faire un live le soir. Eh bien, vous faites une petite stories en disant, bonjour à tous, ce soir, on est en stream, machin et tout. Et l'avantage, c'est que ce petit encart, cette petite stories, va rester visible pour toute votre communauté. Parce que Twitch, aujourd'hui, a vraiment ce problème que ce qui amène les gens sur un live, c'est quand tu le postes sur d'autres réseaux sociaux. En fait, Twitch, c'est un peu ce qu'ils nous ont dit pendant l'événement. Twitch en a marre que les gens ne viennent que pour regarder et s'en vont dès que le streamer a fini.
Ouais.
Et ils veulent que Twitch devienne une fin en soi.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
avec des stories. Et aussi, ils ont rajouté un feed pour découvrir des clips. Parce que sur Twitch, vous pouvez faire des petits clips de... entre 15 secondes, je crois, et une minute, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et ces clips sont souvent très rigolos. Donc là, ils veulent faire un TikTok directement intégré sur Twitch où vous scrollez pour voir les clips de vos streamers favoris, mais pas que. Il y a de la découverte.
Donc, il ne faut pas tomber dans l'analyse bébête en disant encore un réseau social qui ajoute des stories comme tous les autres. Là, c'est quand même des stories très spécifiques liées au contenu de Twitch.
Ouais.
Et c'est un moyen de promouvoir le contenu de Twitch, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif et un peu cryptique.
Ouais.
Quand tu es un nouveau venu sur Twitch, alors ça plaît beaucoup à la génération Twitch, on va dire.
Ouais, ou aux gamers.
Aux gamers qui savent s'y retrouver, ouais. Mais nous, on le sait, parce qu'on a débarqué il y a 3 ans sur Twitch, et une partie de notre communauté nous ont dit on n'y comprend rien à Twitch.
Twitch, c'est vrai, et pour nous qui maintenant savons l'utiliser, c'est hyper cryptique. Hein.
C'est très cryptique.
L'interface,
comme raison, hein.
Vraiment, elle est lourde, elle est compliquée, elle a des couleurs qui en plus sont quand même. Si t'es pas dans ce mood-là, si t'es pas un gamer, les paillettes Twitch, elles sont un petit peu éblouissantes, quoi. Donc nous, on est plutôt contents de ces annonces, surtout qu'effectivement, nous, on a quand même senti à l'événement, et c'est une sensation qu'on a depuis quand même plusieurs mois, voire années maintenant, c'est que Twitch a besoin de se renouveler, Twitch a besoin d'avoir plus d'audience, parce que Twitch, financièrement, ne va pas très 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 bien. On pronostique certaines choses, on spécule que peut-être que Twitch et Amazon à un moment ça va clasher parce que Twitch en tant qu'entreprise individuelle ne rapporte pas d'argent, Amazon n'a pas spécialement de raison de les garder. Hein.
Disons qu'ils en avaient une bonne, c'était le jeu vidéo,
voilà.
Mais vu qu'Amazon se prend des mandales violentes. Le jeu vidéo, hein, ils ont mis beaucoup d'argent et pour l'instant, ils n'ont pas eu de gros bangers en jeu vidéo. Peut-être qu'effectivement, la pertinence de garder un réseau social qu'ils avaient racheté pour la promotion de leur jeu vidéo va se faire sentir. À voir. Là, c'est vraiment de la pure spéculation de notre part. Mais tout ce qui peut aider Twitch à s'en sortir est une bonne chose. Nous, c'est un réseau qu'on aime bien. C'est là-dessus... fait, et ça me permettra d'amener la conclusion.
Tout à fait.
C'est là-dessus où vous pouvez nous retrouver pour un live matinal. En tout cas, c'était notre formule. Elle va peut-être avoir quelques changements. On n'en sait rien. Là-dessus,
on travaille. Mais il y aura toujours des lives
sur Twitch.
Il y aura toujours des lives.
Toujours des lives sur Twitch.
Les événements, surtout qu'on couvre, les keynotes d'Apple. Si vous voulez avoir nos avis sur les produits Apple, sur les annonces Samsung aussi, Google, ce sont des choses.
Voilà,
qu'on couvre.
Ça, une chose est sûre, c'est dans les premières décisions, on va essayer de mieux couvrir les événements tech en live sur Twitch. Ce soir, on va parler de Nothing's Phone 2. Nothing's Phone 2, donc très intéressant.
Ouais.
Si jamais vous entendez cette émission avant ce soir, on est le 11.
Le 11, c'est à 17h qu'on fait
ça. Le 11 juillet.
Ouais.
En tout cas, on remercie Patrick de sa confiance. Patrick qui doit être en train de s'arracher les cheveux en disant « Mais pourquoi j'ai laissé les manettes de mon émission ?»
Exactement.
À ces gens qui sont complètement fous. On espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a apporté des analyses. Je sais qu'on n'a pas trop lu les infos et les faits, mais je voulais laisser beaucoup de temps aux opinions et aux avis, en espérant que notre formule vous plaît. Et puis si ça ne vous plaît pas, ne vous inquiétez pas, Patrick va revenir.
Oui, voilà. Exactement. On lui souhaite en tout cas.
On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Et pour ceux qui partent en vacances, on vous les souhaite excellentes. Et pour ceux qui reviennent de vacances, bon courage.
Voilà, des
ciao
bisous
tout
le monde.
Merci. Ciao, ciao.
Ciao.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.